France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Pina Selek. Ce qui m'a captivée dans la lecture de votre livre, c'est qu'il est à la fois tissé de votre rigueur scientifique et ce que vous avez écrit à l'époque concernant le peuple kurde et ce que vous en avez découvert, mais également tissé de votre intime.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
C'est l'histoire du peuple kurde divisé entre les frontières nationales de quatre pays au Moyen-Orient, dont l'histoire a été niée, la langue interdite, la population persécutée. C'est l'histoire d'un mouvement populaire de résistance né malgré la répression en Turquie. C'est l'histoire d'une jeune sociologue de 24 ans qui décide au mi-temps des années 90 de s'intéresser à ces processus de soulèvement par une enquête de terrain malgré les risques. Arrêtée, torturée, emprisonnée, elle parvint à protéger ses sources, mais l'ensemble de ces matériaux furent détruits. Dans son dernier livre, la sociologue Pnar Selek part sur les traces de cette recherche confisquée et la reconstitue par la force de la mémoire et de l'écriture. Son récit tient à la fois du compte-rendu d'enquête, du témoignage littéraire et d'un acte de résistance. Pnar Selek est notre invitée. En fin d'émission, nous nous quitterons comme chaque jour en cherchant de la musique dans un livre. Elle est très présente dans ce texte, on verra de quelle façon. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Pnar Selek.
Bonjour Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour parler de ce livre « Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde ». C'est son titre, il a paru aux éditions Université Paris Cité. Et puis j'en profite tout de suite pour signaler que votre premier roman « La maison du Bosphore » qui était un portrait d'Istanbul dans les années 80 et 90 et qui avait paru pour la première fois aux éditions Liana Levy en 2013 va reparaître tout prochainement dans une édition de poche aux éditions des femmes, votre maison d'édition, les éditions des femmes, Antoinette Fouque. Oui. On va plonger dans la matière de ce très beau texte, lever la tête dans un deuxième temps de cet entretien, Pnar Selek, mais pour commencer cette émission, ici tous les jours au Book Club, on a l'habitude de faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs, des lectrices, de leur demander de nous raconter la manière dont c'est faite pour eux, la rencontre ou pas. Avec les livres, on devine à lire ce texte que vous êtes une grande lectrice. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez nous décrire dans quel paysage vous avez fait connaissance avec la lecture? Comment vous avez rencontré les livres dans l'enfance peut-être?
Merci pour cette question Mathilde. Oui, parce que moi j'avais beaucoup de chance, j'ai grandi, donc imaginez 1980, il y a eu un coup d'état en Turquie. J'avais 9 ans. Mais avant ça, à partir de 6 ans, 5 ans, on a grandi dans un appartement mais qui nous paraissait très, très grand parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y avait des écrivains, des poètes. Mes parents étaient très engagés. Et il y avait beaucoup de lectures, beaucoup de discussions et beaucoup, beaucoup de livres. Et notre père, mon père, il était un conteur. Il était avocat, il était militant, mais il était un conteur. Donc, il nous racontait tout le temps avant qu'on ait appris à lire. Et ensuite, donc, c'était une période que la lecture, c'est comme manger, boire. C'était partout, les livres. Et moi, je lisais énormément. J'ai commencé par les contes. Je me souviens maintenant, quand vous m'avez posé la question, si je réfléchis, je vais vous dire d'autres, mais... je pense par exemple à Behrengi, c'est un conteur, c'est un écrivain iranien qui était tué, à cette époque il était déjà tué, mais il avait des contes extraordinaires. Vous, je peux raconter tous ces contes aujourd'hui, vraiment je les ai imprimés en moi. Mmh. Et donc, en plus, on racontait beaucoup ce qu'on avait lu. Donc j'étais petite, mais après, quand mon père était, donc quand le coup d'État il est arrivé, 1980, ce n'était pas comme le livre, c'était un peu, mais pas tout à fait du livre de George Orwell.
Orwell.
C'est pas 1984, mais presque. Mm. C'est-à-dire, par exemple, le livre de Éloire était interdit, c'était un délit. Je ne parle pas de Aragon. À ce point-là,
ou bien les livres d'Éluard ont été interdits du jour au lendemain.
Même, je veux dire, les autres, c'est déjà interdit. Ouais, ouais. Et par exemple, des grands poètes en Turquie, Ahmet Arif, Nazım Hikmet, des très très Yaşar Kemal, tout était interdit. Donc, tout d'un coup, moi, j'étais je suis passée avec ma sœur d'une monde très magique où les livres faisaient partie de ce monde magique. Tout d'un coup, mon père, il est parti, tous ces gens sont partis et nous sommes commencé à aller aux prisons pour voir.
Votre père, il a été emprisonné pendant 5 ans oui, à ce moment-là, juste après le coup d'état militaire en Turquie.
Oui, parce que c'était un militant de droits de l'homme.
Et un opposant au régime.
Et surtout très active au niveau avocat. Donc, il faisait beaucoup de lutte de justice contre la torture, contre beaucoup de choses. Donc, il s'est trouvé en prison. Et tout d'un coup, je me souviens, les poésies de l'amour de Nazım Hikmet étaient interdites. Mais c'était incroyable. Et donc, tous ces livres sont devenus des trésors pour moi. Et donc, garder ces trésors, toucher à ces trésors, voir ces trésors, c'était très magique. Donc, avec ma sœur, je me souviens très bien, ma mère nous a beaucoup entraînés, encouragés. On était très contentes. Nous continuons notre compte en touchant à ces trésors, en lisant. Comme si la lecture, c'est devenu un acte de résistance. C'était incroyable. Et après, moi, j'ai continué à écrire à mon père. Donc, tous les jours, je l'écrivais. Mais je parlais de toutes les choses. Et un jour, il m'a dit, Pınar, fais attention parce que je suis avocat et je suis représentant de plein de prisonniers en prison. Tu me racontes tout. Il faut pas me raconter tout. Mm. C'était de raconter, je sais pas, des quotidiens de la maison, etc. Donc, parce que ces lettres sont lues par les soldats. Donc, il faut que tu trouves des façons de dire autrement. Donc ils vont pas comprendre, mais je veux comprendre. Il faut que tu crées
une sorte de code secret
ou des métaphores. Mm. Et moi ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai commencé à plus lire la poésie, plus lire. Donc je lisais déjà, mais c'est devenu vraiment une besoin d'une alimentation d'expression. Donc voilà.
Vous lisez de la poésie aussi pour trouver des façons de déguiser.
Oui, je voulais vraiment me baigner dans ce monde de dire autrement les choses. En plus, ces poésies étaient interdites, donc je voulais vraiment. Donc c'était les trésors. Donc c'est me baigner dans ces trésors m'a fait protéger. Malgré cette répression militaire de cette époque.
C'est intéressant que vous mentionniez d'emblée la notion de clandestinité, de trésor caché. Trésor caché, on va le voir, hein, qui est une notion tout à fait centrale dans le livre.
Oui, je l'ai dit exprès.
qui va nous occuper aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le fait que, du coup, à partir d'un moment qui arrive assez tôt dans votre vie, la lecture ait été associée à une activité interdite, ça a développé chez vous un rapport particulier à cette activité-là? De quelle façon?
Oui, même ma mère, à un moment donné, me fâchait parce que je lisais les nuits. Mm. Alors, les enfants, j'étais pas toute petite, mais 10 ans, 11 ans quand même, il fallait aller à l'école, etc. À 2h du matin, 3h du matin, elle arrivait, elle disait, elle était à la fenêtre.
Faut dormir
la
nuit.
Découvrais, je sais pas, Chodorov, Dostoevsky, Tchekhov. Et vraiment, je me suis, parce que j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Et je crois qu'avant la sociologie, et je me suis approchée plus à la littérature pour un peu comprendre tout ce qui se passe, la société, le monde, etc. Donc je lisais beaucoup la littérature russe, mais pas seulement Steinbeck, Jack London, ou je ne sais pas, je n'exagère pas, mais je crois qu'en 12 ans, tous les Balzac étaient finis.
Mais j'ai
relu,
énorme,
j'ai relu après. Balzac, les paysans, etc. C'était difficile pour comprendre quand on est petite. Mais vraiment, j'étais une lectrice. C'était une habitude. Et à la fin, j'avais trouvé une petite lampe. Et donc, je éteignais la lumière et je lisais dans mon lit avec cette lampe, voilà. Donc la lecture, c'est toujours m'habite aujourd'hui.
Et la notion de secret, de cachet, elle est associée à une forme de jubilation, si je vous entends bien.
Tout à fait.
Dans le récit dont on va parler tout à l'heure, vous racontez notamment les plus de 2 ans que vous avez passés en prison, une période évidemment très dure de votre vie à la toute fin des années 90. On va voir de quelle façon l'écriture a joué un rôle tout à fait fondamental dans votre vie. À ce moment-là, je me suis demandé à lire ce récit, Pnar Selek, si la lecture avait aussi joué un rôle à ce moment-là de votre vie. Est-ce que vous avez lu, est-ce que vous pouviez lire en prison, et si oui, quel rôle ça a eu pour vous à ce moment-là de votre vie?
J'avais de la chance, si je peux vous dire, parce que à l'époque que j'étais en prison, les conditions de prison étaient différentes qu'aujourd'hui en Turquie. À l'époque, il y avait des résistances, des grèves de faim, etc. Donc il y avait des droits qui étaient gagnés. Et imaginez que en 1998, il y avait à peu près 35-40 000 prisonniers politiques ou prisonnières politiques. Et donc, c'était vraiment un espace assez important. Et là, on était dans les dortoirs. Et pas tous les livres, mais il y avait beaucoup de livres qui venaient. Et même, donc, on n'était plus dans l'année 80 qui interdisait Éloire. Après, c'est revenu parce qu'il y a eu des luttes sociales qui ont pu changer les choses. Et donc, il y avait beaucoup de livres. Et à cette période, donc, il n'y avait pas tous les livres. Mais par exemple, ça m'a permis de découvrir la littérature, je ne sais pas comment dire, l'histoire des religions, les religions. Mani, les romans un peu plus Moyen-Orient, ou les différentes philosophies tibétaines, chinoises. Parce que je pense que, en plus, j'étais avec les Kurdes, et ces gens, ces personnes, ou ce mouvement en général, n'étaient pas très fermés juste à une seule. Source d'influence politique théorique. Et donc, il y avait beaucoup de choses là-bas. Donc, ça m'a permis que j'ai lu la vie de plein de prophètes qu'on ne connaît pas. Je me souviens Mani, mais je ne peux pas tout dire parce que c'est en turc. Voilà. Mais je pense que ça m'a permis à cette période de me nourrir avec d'autres littératures, parce que même si l'État turc, il connaissait une partie, il les interdisait, il ne connaissait pas les autres. Donc, on trouvait toujours, le coup les trouve son chemin. On trouvait toujours, et ça peut devenir un avantage, parce que si j'étais dehors, je n'allais pas les lire. Donc, j'ai les yeux, donc ça m'a. J'ai passé une période assez intéressante, assez fort. Donc, en dehors de toutes les violences qu'on subissait, et on pouvait lire et on pouvait discuter. Donc, il y avait beaucoup de discussions.
Et les discussions portaient notamment sur ces lectures. Vous pouviez partager des lectures.
Oui,
avec
on avait dit que, par exemple, entre 10h et midi, c'était un temps. Par exemple, moi, j'avais lu un livre, je racontais ce livre. On était 90 dans notre dortoir. Et vous avez lu une autre chose. Mais à votre manière, vous expliquez. Et on faisait un débat. Donc, c'était notre temps collectif. Après, il y avait d'autres moments individuels, etc. Mais nous avions prévu quelque chose comme ça. Mais en dehors de ça, par exemple, moi, j'avais fait un atelier de lecture. L'autre, il faisait atelier de chant. Donc, on faisait des ateliers en dehors de ce 10h et midi. Donc, on organisait la journée comme ça.
La lecture était une chose vivante, comprends bien. Dans la première partie...
J'ai oublié de vous dire. J'avais une amie en prison, qui est toujours mon amie, elle était aveugle. Et elle était, c'était une jeune femme kurde qui était devenue aveugle durant la torture. Et on a arraché on a brûlé les yeux. Et elle a pu survivre, elle était en prison. Et elle ne parlait pas turc au début, mais elle a appris le turc en prison. Et c'était pour nous. Elle adorait lire Elle voulait, mais elle ne pouvait pas lire. Donc, tous les jours, tout le monde lisait, on lisait tous les livres qui arrivaient.
À voix haute, vous lui
lisiez. Elle entendait qu'il y a un nouveau livre. Mais comment elle entendait? Elle s'appelait Hédier. Elle disait, ah, j'ai entendu qu'il y a un nouveau livre. Vous m'avez caché. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui lis. Demain, c'est vous qui lis. Donc, il y avait cette lecture.
Il y avait un relais de lecture à voix haute pour elle.
Oui, il y avait un relais de lecture pour Hédier, toujours.
Dans la première partie du livre dont on va parler, dans lequel vous racontez la façon dont se sont déroulées vos recherches auprès de populations kurdes dans les années 90, vous citez un certain nombre d'auteurs kurdes, notamment le poète de Turquie, kurde de Turquie Ahmed Arif, l'écrivain Moussa Anter, qui a été un des pionniers de la littérature kurde moderne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette littérature-là, de ce qu'elle a de singulier peut-être, et aussi du rôle qu'elle a joué peut-être pour vous dans votre découverte de cette culture kurde sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Narselek.
Alors, paradoxalement, je n'ai pas connu ce mouvement, je n'ai pas connu cette population à travers les lectures. Et c'est plutôt à travers les rencontres. Parce que même si Ahmed Arif était kurde et il parlait beaucoup de la population kurde, de tout ce qu'ils ont subi, moi je ne comprenais pas. Je sentais c'est très beau, mais comme si il parlait de avant Jésus-Christ, de notre espace. Mais parce que je dois souligner que le kurde était interdit dans mon pays.
La langue kurde.
La langue kurde était interdite. Et même dire le mot kurde était interdit. Donc, il y avait des représentants d'État au plus haut niveau sortaient, disaient, mais vraiment, sérieusement, ils disaient qu'il n'y a pas des Kurdes. C'est des Turcs de montagne. Comme il y a beaucoup de neige, en marchant, ils font carte courte. Vous imaginez?
Oui, c'est un processus de négation.
Négation, mais absolue. Très, très violente. Et si on dit qu'on est kurde, vous êtes en prison pour essayer de diviser l'État, etc. Donc, les Kurdes, les écrivains ou les artistes kurdes, et donc, dans la littérature écrite et publiée et diffusée de façon officielle, n'écrivaient pas. Un truc, surtout Ahmed Arif. Mais je sais qu'Ahmed Arif écrivait en kurde et le disait dans d'autres espaces que moi je ne connaissais pas à l'époque. Ouais. Et Moussa Antaj, je l'ai connu, je l'ai su quand il était tué. Il était tué début des années 90. Et moi, il était à la fois journaliste et moi je ne connaissais pas ses poèmes. C'est les Kurdes qui connaissaient ces poèmes, parce que c'était un Kurde et il les diffusait autrement. Mais moi, je n'étais pas dans ce cercle-là. Et il était une des plus grandes poètes des Kurdes. Et quand il était tué, donc c'était un homme vraiment pacifiste, un homme de culture, le trésor de cette population. Lui, il a essayé d'écrire en kurde, il a fait beaucoup de choses, il a emprisonné, etc., etc. Mais moi, je ne voyais pas ce qu'il faisait. Donc, je n'avais pas accès à ces médias. Et donc, je les ai découverts. Quand j'ai commencé à faire cette recherche.
Ouais, et à travers les récits, du coup, que les gens que vous interrogiez vous faisaient de leur propre rapport à ces textes, du coup.
Oui, elles m'ont montré les journaux secrets à la maison qui se diffusaient de façon très, très large. Et ils me disaient que voilà, tu vois, il a écrit là-bas, ici, et ils me montraient toute la poésie. Et donc, j'avais commencé à ce temps-là à apprendre un peu kurde. Et donc j'avais plus d'accès, parce que tout n'est pas traduit en turc, et c'est pas obligatoire non plus. Mais nous, on devrait apprendre le kurde pour pouvoir les comprendre, je pense. Donc voilà, donc cette littérature, je l'ai découvert un peu plus tard. Et j'ai situé Ahmed Arif, qui était un de mes, je crois que mon poète préféré, c'est Ahmed Arif. Parce que quand il écrit, tout votre corps brûle. Même en turc, donc ce qu'il écrit. Mais je croyais l'avoir compris, Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mm. Parce que quand il parle, il y a eu des gens qui étaient tués par les soldats. C'est des contrebandiers. Je comprenais qu'il il passait à l'autre côté du frontière, mais je ne comprenais
en
pas
fait,
vraiment.
En fait, vous n'aviez pas les références. Il renvoyait à des mouvements de résistance kurde.
C'est ça.
Mais le sous-texte vous était étranger. C'est à travers votre recherche que vous
après
avez
accès. Après ma recherche, ouais. Quand j'ai relu cette poème de 33 balles, donc 33 personnes.
C'est un poème que vous citez dans le livre.
Dans mon livre, et j'ai pleuré parce
qu'il fait référence à un massacre.
Un vrai massacre, ouais. Parce que je peux dire maintenant une petite chose, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, après les premières guerres mondiales, donc avec c'est la responsabilité des alliés aussi, les Kurdistan les divisaient en quatre. Donc les cousins sont restés en Syrie, les neveux sont restés en Irak, l'oncle est resté en Turquie, la tante est restée en Syrie ou en Iran.
Ouais.
Et donc, mais avec ma recherche, j'ai compris très bien que les Kurdes ne reconnaissaient pas ces frontières. Et comme c'était une zone rurale, et ils marchaient, ils passaient, etc. Donc il y avait beaucoup de tabac qui circulait, le thé qui circulait, mais c'était de sautante. C'est pas une contrebande. Mais aussi les poésies circulaient, les histoires se circulaient. Et là, quand j'ai vu que ces 33 personnes qui sont allées visiter leur oncle pour amener un cheval, je ne sais pas, des choses tout simples qu'on le fait tous les jours dans les villages, mais juste il est passé à l'autre côté de la frontière, pour eux ça n'existe pas. Et comment ils ont été tués et comment leur corps était fouillé, tout ça. Donc après, la poésie a pris toute son
sens. Une force d'autant plus vive. Et si je vous entends bien, ça signifie aussi que la littérature est l'un des espaces de circulation de cette culture pour ce peuple kurde. On va en parler en étudiant votre livre, Pnar Selek. Pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute la voix d'Emel Matlouti, cette chanteuse tunisienne qu'on était nombreux à avoir découverte pendant le printemps arabe en 2012. La chanson qu'on va écouter est extraite de son dernier album qui date de 2024. Elle s'appelle Massive Will. Je vous traduis quelques paroles. C'est la voix qui grandit en toi et en moi. C'est ta nouvelle façon de dessiner le jour de ta liberté. C'est l'âme qui naît à l'aube de ta liberté. C'est la voix qui gronde en toi et en moi.
Wow.
Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
J'écris pour découvrir et me débarrasser du désarroi. Tels sont vos mots, Pnar Selek, en ouverture d'un livre à la forme singulière. Il y a 27 ans de cela, vous êtes arrêté pour avoir mené des recherches sur les pratiques culturelles ayant participé à l'émergence du mouvement de résistance kurde en zone rurale dans l'est de la Turquie. Les autorités veulent vous faire livrer le nom des personnes que vous avez interrogées. Torturé, vous résistez, vous êtes emprisonné pendant 2 ans et demi. Les matériaux de votre recherche, carnets, transcriptions d'entretiens sont confisqués. Suite à quoi vous subissez plusieurs procès et un harcèlement judiciaire qui dure jusqu'à aujourd'hui. En 2009, pour échapper à un nouvel emprisonnement, vous êtes contrainte de quitter le pays, gagner l'Allemagne, puis la France. Dans ce récit, vous partez sur les traces de cette recherche confisquée et parvenez, par le mouvement de l'écriture, à la faire ressurgir du profond puits de la mémoire. Vous nous en exposez les hypothèses, les enquêtes de terrain, les conclusions, en inscrivant dans le corps du texte des notes, des témoignages recueillis à l'époque, que vous reconstituez comme dans un puzzle. Il s'agit de ressusciter une recherche détruite et nous faire partager le cheminement de votre pensée, la force du livre tenant beaucoup à l'entremêlement constant de ces différentes dimensions, l'une nourrissant l'autre dans un effet de miroir saisissant. Car on retrouve la force, l'inventivité, l'originalité du mouvement de résistance kurde dans votre démarche propre dans ce texte, jusque dans son titre « Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde », il a paru aux éditions Université Paris Cité, et on vous retrouve pour en parler, Pnar Selek. On peut peut-être commencer par là, par ce beau titre que vous empruntez à un mot kurde, alors je vais le prononcer mal sans doute, Serildan.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il désigne, ce terme, comment, pourquoi vous est venue l'idée de l'inscrire sur la couverture même de ce livre, d'en faire le titre de ce récit?
Dans les années, début des années 90, donc 89, 90, 91, 92, etc., il s'est passé quelque chose, on a parlé des printemps arabes en Tunisie, mais les Kurdes se sont soulevés. Mmh. Mais des enfants, des vieux, tout le monde. Et c'était un soulèvement qui a duré des années, des années, des années, et surtout la population rurale. Il y avait tout le monde, mais surtout il y avait beaucoup de populations rurales, jusqu'alors silencieuses. Et c'était, comment vous dire, c'était impressionnant de les voir comme ça, parce que moi, j'ai grandi à Istanbul, dans un espace où le répertoire militant, le répertoire politique est très différent. Et donc, on marche, on fait des manifestations, etc. Mais là, il y avait la danse, la musique, etc. Et avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Et il y avait le feu. C'était quelque chose vraiment comme un théâtre. Et cet soulèvement a reçu une violence terrible. Mmh. Chaque manifestation, au moins, 30, 40 morts, beaucoup, beaucoup de morts. À ces années, il y a, je crois, pas plus que, 10 000 morts, il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Mais malgré cela, la résistance continuait. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Serildan. Alors Serildan, ça veut dire soulèvement. On peut le traduire comme ça. Mais la traduction littéraire, Ser, ça veut dire la tête. Hildan, lever. Ça peut être soulèvement, mais lever la tête aussi. Et ça m'a beaucoup parlé, cette phrase. Et donc, c'était à travers les Serildan que j'ai posé ma première question, si vous voulez. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que une population jusqu'alors silencieuse, à travers une organisation politique qui vient de naître, parce qu'il n'y avait pas qu'une organisation politique, qui devient vraiment un grand soulèvement, qui continue, et un soulèvement qui devient un mouvement social. Parce que vous pouvez vivre un soulèvement, après ça peut finir. Mais là,
un soulèvement qui s'organise.
Qui s'organise et qui dépasse même l'organisation même.
et qui devient transfrontalière, transnationale, et qui, voilà, qui devient un mouvement social. Donc, cette question-là que je me suis posée au début, et j'ai fait cette recherche pour comprendre le settle down.
Qu'est-ce qui, chez la toute jeune femme turque que vous étiez alors, hein, je dis quand vous commencez cette recherche à la fin des années 90, vous avez 24 ans, 1995,
J'ai commencé 95, ouais. J'avais 24 ans, oui.
Qu'est-ce qui fait que, contemporaine de ces événements-là, et n'ayant pas, je crois, a priori, de lien avec ce mouvement-là, avec le peuple kurde, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez à ce mouvement, au point d'aller enquêter de nombreuses années?
Alors, je vais essayer de raccourcir vraiment. En 92, donc j'ai commencé l'université, dans mon école, dans mon université, j'avais des amis kurdes. Et on s'est sympathisé, c'est les rencontres qui m'ont transformée toujours dans ma vie. Parce qu'ils sont arméniens, c'est la même chose, j'ai compris.
Vous avez aussi travaillé.
C'est toujours les rencontres avec les vraies personnes. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand elles m'ont invité, donc l'été de 92, quand je vais à leur village, il y a une avant et après dans ma vie, parce que je les vois différents, même leurs habits étaient différents. À Ankara, ils étaient ils avaient avec le jean, avec le t-shirt, et là je les vois différents et avec beaucoup de couleurs, et elles me disent que on va aller au village, il y a un troubadour d'Ingbej, et donc je dis d'accord. Et on y va, et là je vois plein de personnes qui ne parlent pas un mot turc, et ça m'a vraiment frappée. Et c'était une période où il y avait cette settle down partout, donc je vais là-bas, je vois les settle down et je vois ces populations, et je rencontre le Dengbej, le troubadour, qui raconte une histoire. On peut discuter un autre jour, tête à tête, peut-être. Shahmaran, c'est ma déesse, c'est une déesse kurde, donc comme les Kurdes, il vient d'une croyance yézidi. Donc l'islamisation était après, mais le yézidisme est très très présent chez les Kurdes, le feu, le soleil, je ne sais pas, tout ça. Et Shahmaran est devenu mon ami, pour vous dire que une femme de serpent et demi femme, et qui est une sage qui connaît toutes les plantes, et c'est une incroyable femme qui serait tuée. Donc son histoire m'a marqué. Et si vous me dites que après 2009 j'ai quitté la Turquie dans mon petit sac, parce que mon père m'a dit il faut prendre un petit sac pour ne pas attirer l'attention, il y avait la photo de ma mère qui était décédée, il y avait Camille Claudel qui est ma copine, et il y avait Shahmaran. Il n'y avait pas d'autres personnes. Donc, j'ai rencontré Shahmaran et ça m'a interpellée. Après, quand je suis rentrée chez moi, donc je raconte vite, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas du tout. Je suis dans une famille de gauche, de progressistes, qui soutient tout le monde. Donc, j'avais un peu l'air de... Je connais tout dans la vie. Mais c'était une claque pour moi. Et après, j'ai commencé à suivre autrement. Toutes les informations que je regardais sur les écrans. Et à petit, donc 3 ans, j'ai eu besoin, parce que j'ai fait d'autres recherches aussi, et j'ai besoin de 3 ans pour construire une problématique sur cette question.
On va écouter un extrait de ce texte. 3 ans de recherche tombés au fond du puits. Je reconstitue mon travail qui a duré plus de 3 ans. Je le reconstitue à partir de mes souvenirs. Il n'y a rien d'autre. Ni mes entretiens, ni mes carnets de notes. Ma mémoire est comme un puits. Je m'efforce à chaque fois de tirer vers le haut les matériaux confisqués de ma recherche, de les rassembler, de les mettre en lumière. Les matériaux que je n'avais pas eu le temps d'analyser de façon structurée. Est-ce que je veux le faire maintenant ? Je ne peux pas. Je ne peux pas les retrouver en intégralité. Je voudrais juste me souvenir d'une partie. Et m'en souvenir comment ? En 1995, quand j'ai commencé mon enquête, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je suis au bord du puits, je regarde au fond du trou, J'essaie d'attraper et de faire remonter à la surface mes carnets de notes et quelques extraits d'entretien. Mes notes seront lisibles en italique et elles seront datées afin de retracer le cheminement de ma pensée de l'époque. Quant aux témoignages rescapés, ils apparaîtront entre guillemets. Ce livre commence à déterrer mon enquête de terrain, ressuscite ma recherche, réfléchit sur ce qui nous est arrivé. Peut-être que plus tard, je m'y mettrai, reconstituer le puzzle, pour l'utiliser dans une nouvelle recherche. Pour l'instant, j'ai mal. C'est un extrait du tout début du livre Pnar Selek, l'introduction de sa toute première partie, pour évoquer avec vous la forme et le mouvement singulier qui se fait jour dans ce texte, qui se découpe en deux grandes parties. Une première partie, au bord du puits, vous reconstituez et retranscrivez cette recherche auprès de ces populations kurdes de l'Est de la Turquie, auprès de qui vous avez enquêté. Et dans cette partie, vous faites ce choix étonnant d'inscrire en italique des notes prises à l'époque, mais que vous reconstituez de mémoire, puisque ces notes, ces citations aussi, entre guillemets, que vous écrivez comme dans une recherche classique en sociologie, on met les citations des personnes qu'on a rencontrées, entre guillemets, mais ce sont des notes et des citations que vous reconstituez de mémoire, puisque ces notes, elles ont été confisquées et détruites par les autorités turques au moment de votre arrestation en 1998. Comment vous êtes apparu la nécessité d'inscrire cette recherche dans cette forme singulière de la faire, comme vous le dites dans ce texte, et le mot est fort, de la ressusciter.
C'est venu tout seul, je pense. D'abord, la révélation que je n'ai jamais parlé de cette recherche depuis 27 ans, je l'ai compris dans un train de Paris-Nice. Tout d'un coup, et j'étais très étonnée. Je n'avais même pas pensé que je n'ai jamais... Je parle toujours des Kurdes, je parle toujours de ma recherche, mais je ne parle jamais de ce que j'ai fait 3 ans et demi. Mm. Je ne parle même pas de ma problématique ou des premiers résultats. Et je n'ai jamais pensé que je n'ai jamais fait. Et donc ça, c'était très étonnant pour moi. Et j'ai commencé à écrire. J'écris beaucoup en réfléchissant aussi. Et j'ai commencé à écrire dans le train. J'avais une Pâque. Et je me souviens quelques phrases. Je suis étonnée, profondément étonnée. Et ce profond étonnement qui me donne la force d'écrire. Je vais découvrir en écrivant et vous allez découvrir avec moi. Mais là, tout de suite... En écrivant, tout de suite, j'ai compris que, parce que j'avais imprimé tous les matériaux dans mon corps durant la torture, donc la curiosité est finie. Et là, il s'est passé une autre chose. Donc, en réfléchissant, en entrant dans cette réflexion, j'ai dit que je ne suis pas encore entrée dans le puits. Donc, je suis au bord et donc on essaie de comprendre ça. Et là, j'ai dit que, oui, Pnar, tu avais vécu des difficultés dans ta vie, ton père était en prison et vous étiez opposante, mais quand même vous étiez turque, fille d'avocate, transparence, une grande confiance en moi, etc. Et donc je n'ai pas réussi à vraiment cacher les trésors. C'est-à-dire j'ai bien résisté à la torture. En dehors de la résistance, j'avais une discipline de Suisse, je peux dire, parce que dans les contextes autoritaires, et les anthropologues, les sociologues développent des principes, des protocoles. Donc, quand à l'époque il y avait des cassettes, quand tu fais un enregistrement, il faut le transcrire tout de suite et détruire les cassettes.
Il faut raconter comment vous, à chaque fois que vous enregistriez quelque chose, vous rentriez chez vous, vous le retranscriviez immédiatement détruire la cassette.
Même chez eux, chez eux.
À chaque fois que vous rentriez là où vous dormez.
Voilà. Et donc, j'étais très très attentive à ça et je n'ai jamais dit que je vais faire demain, après-demain. Donc, ils n'ont rien touché. Aucune cassette. Mais quand même, j'ai compris cette responsabilité. Je pouvais faire un peu plus d'attention. Donc, j'ai dit que maintenant, j'ai une responsabilité à ces personnes qui m'ont confier leur expérience avec la peur aussi. Donc, à partir de là, j'ai dit que vraiment, je dois vraiment réfléchir comment je peux restituer ces expériences, une partie. Alors, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, d'abord, j'ai lu Germain Tillon, Lévi-Strauss, j'ai un peu discuté dans ma tête avec Broway, etc. J'ai dit comment retour aux matériaux, et Germain Tillon a dit que je me réveillais la nuit, je pensais juste une phrase, je l'ai notée, etc. Donc, je me suis un peu nourrie de leurs expériences, mais j'étais sûre que c'était impossible de faire une restitution classique de la recherche, parce que je ne suis pas la même personne, etc., pour plein de raisons. Donc, j'ai dit que je peux vraiment, comme je suis aussi romancière et conteuse, j'ai dit que peut-être, donc, je peux mobiliser cette connaissance, cette forme d'expression, pour aussi que Pnage de 53, 54 ans, entre dans le corps de Pnage de 24 ans, et la littérature va permettre ça. Donc, réciter et faire une rencontre entre nous deux, entre Pnage d'ancien et Pnage d'aujourd'hui. Et cette rencontre, j'ai dit que je ne peux pas que faire avec la sociologie classique, je dois faire avec un peu, c'est une conte, je pense, c'est une littérature aussi. Donc, j'ai réfléchi beaucoup parce que, par exemple, les italiques que j'ai utilisés avec je fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Si vous voulez, je le dis sans exagération, peut-être durant l'écriture, qui m'a pris plus que 6 mois, j'ai pas dormi plus que 3 heures toutes les nuits. Et peut-être quelques fois, oui, mais en général, non. Et donc, j'ai beaucoup travaillé et pour vraiment être fidèle à Pnage de cette époque. Donc, j'ai dit, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? À la fin, j'ai dit que je vais, elle va parler et moi, je veux parler à côté.
Les italiques, hein, je le rappelle pour que tout le monde comprenne bien, ce sont les parties du texte où vous retranscrivez comme si vous aviez sous les yeux les carnets de notes qui étaient les vôtres à l'époque, mais qui ont été détruits, mais qui permettent comme ça un dialogue entre votre présent de l'écriture, donc 30 ans après cette recherche, et la jeune chercheuse que vous étiez alors. Et ce que ça produit, c'est vraiment très saisissant, c'est qu'on a aussi l'impression d'assister à une recherche en train de se faire, de voir la manière dont, à l'époque, suppose-t-on, vous travaillez ces hypothèses et vous découvriez un mouvement de résistance tout à fait singulier. Si on devait résumer à grands traits la singularité de ce que vous avez découvert, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure en parlant de ces troubadours kurdes, hein, c'est l'un des modes d'expression singuliers autour duquel s'est formée une forme de résistance, mais il y a tout un tas d'autres articulations culturelles, on pourrait dire, au sein du peuple kurde, entre des formes de littérature, de théâtre, de chant, de musique et une forme de résistance. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là? Qu'est-ce qui est si singulier chez ce peuple-là?
Alors, je crois que j'ai découvert, pour résumer vraiment en gros, deux choses. Premièrement, comment la population a pu continuer à reproduire sa culture. Ce n'est pas seulement protéger sa culture, mais continuer à produire sa culture malgré l'interdiction, malgré que même cette culture était criminalisée. Donc j'ai découvert que le secret était très important. Au début, une des vieilles femmes m'avait dit que il y a des bandits partout, il faut bien que j'ai les trésors. Donc j'avais conceptualisé le mot trésor. Et j'ai dit que, voilà, ces trésors, ça veut dire toutes les ressources culturelles, mais donc beaucoup musicales et beaucoup de la littérature orale, et qui se passe par les Dengpej, mais qui se passe aussi par les radios qui viennent de Yerevan et de Georgie. À l'époque, c'était l'Union soviétique, où il y avait des Kurdes. Ils avaient le droit une heure par semaine en kurde. Donc, tout le monde écoutait ça, les enfants, les vieux. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et la danse. Et la danse était apprise par tout le monde. Et après, il y a le moment montré que, tu sais, quand tu danses comme ça, tu fais tes pas comme ça, ça veut dire que c'est la danse des combattants. Mais l'État ne comprend pas. Donc quand nous, on danse dans nos fêtes, tout le monde comprend que voilà, il y avait une répétition avec les symboles et avec
c'est tout un langage codé secret, mais que tout le monde au sein du peuple kurde comprend.
Et donc j'ai discuté un peu avec dans ma tête avec James Scott le texte caché. Donc j'ai vu que le texte caché était vraiment très diffusé.
James Scott, qui est un sociologue, anthropologue américain, qui a théorisé cette notion de texte caché.
Tout à fait. Et Alvin Goffman parle des coulisses et comment la résistance peut continuer dans les coulisses. Donc j'ai utilisé coulisses et texte caché à l'époque. Et donc j'ai compris que dans ces coulisses, il n'y avait pas seulement une protection, mais il y avait toute une vie qui résiste et qui se reproduit. Et deuxième analyse était une autre chose. Donc, dans les premières analyses, je répète, il y avait la musique, la danse, etc. Donc, c'est à travers ça que c'est contenu. Et dans la deuxième analyse, c'était plutôt quand l'organisation politique est sortie, le PKK.
Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été fondé en 1978. Voilà. Oui, je le dis à la française. Mais...
Oui, parce qu'il y a eu tout un débat en Turquie qu'il faut dire, il faut pas dire PKK, il faut dire PKK. Les Turcs veulent qu'on dise PKK parce qu'il y a caca dedans. Il y a toute une autre histoire. Donc, le PKK, quand il était sorti, donc moi, je n'ai pas fait la sociologie de l'organisation, donc je ne suis pas entrée dedans. Mais j'ai vu que tout c'est multicausal. Mais le fait cette organisation a pu résister après le coup d'État, elle a trouvé les ressources transfrontalières, tout ça, et elle n'a pas été écrasée, a donné une possibilité à la population. Et donc j'ai compris qu'avec les Sarıldan, avec la lever la tête, la population a monté sur la scène. Et là, donc c'est ma deuxième analyse, qu'est-ce qui se passe sur la scène? Donc là, j'ai compris que j'ai dit à un moment donné que toutes les personnes ont sorti leur coffre, ils ont mis partout leurs bijoux et ils ont monté sur la scène. Et sur la scène, il se passe quelque chose. On peut le voir dans d'autres expériences d'action collective, mais le caractère transformatrice de l'action collective. Et il se passait beaucoup de choses. Donc, c'est surtout la dignité qui est gagné, et la population, une de mes autres interlocuteurs me dit, la génie est sortie de la bouteille, et moi je continue, parce que la bouteille est cassée. Donc, et après, donc, il y a eu une répression énorme. Donc, quand j'ai été sur le terrain, il y avait cette répression. Et moi, j'avais même peur. J'ai dit qu'ils ont sorti toutes les coffres. Elles ont sorti toutes les coffres. Ils ont monté sur la scène. Et maintenant, elles vont être massacrées. C'est fini. Et tout d'un coup, en suivant, j'ai vu que ces scènes, avec les migrations, sont devenues nomades. Et il y a plein de scènes. Et donc, il y avait la structuration des relations sociales et le mouvement social s'est grandi autour de ces expériences qui a gagné d'autres ressources et qui a continué à circuler toutes ces expériences. Donc, voilà.
C'est cette recherche que vous retranscrivez.
Et je dis que c'est devenu une danse à mille têtes. Donc voilà, j'ai fini comme ça.
Et cette danse à mille têtes dont vous parlez dans la première partie de votre ouvrage, elle s'articule dans ce livre aussi au récit de votre arrestation, de la torture, de tout ce parcours que vous avez traversé. Je voudrais qu'on écoute une question que vous adresse Agnès. Elle a lu votre livre et elle vous dit ce qu'elle en a pensé.
Bonjour le Book Club, bonjour Pina Selek. Ce qui m'a captivé dans la lecture de votre livre, c'est qu'il est à la fois tissé de votre rigueur scientifique, de votre volonté de nous exposer la manière dont vous avez travaillé et ce que vous avez écrit à l'époque, mais également tissé de votre intime, de l'exposition de la violence qui vous a été faite à cette époque-là et de comment vous avez voulu à un moment vous en saisir afin de pouvoir restituer votre mémoire qui avait été morcelée. Et j'aurais voulu vous poser cette question-là. À un moment, vous parlez de responsabilité. Et comment émerge cette notion de responsabilité dans le travail que vous faites sur votre mémoire? Merci pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Agnès, pour cette question, cette notion de responsabilité, Pnar Selek. Vous parlez en effet à un moment dans ce livre de recherche responsabilité. Comment elle émerge? Quel sens elle recouvre pour vous?
Comme j'avais un peu commencé à parler, et en écrivant, en sortant depuis tous ces souvenirs, j'ai réalisé que même si je ne suis pas coupable de cette histoire, j'ai une responsabilité parce que je pouvais faire un peu plus attention pour vraiment cacher les trésors. Et je n'ai pas fait, même si après les trésors...
C'est étonnant de vous entendre dire ça, parce que dans ce livre, vous racontez comment vous avez tout de même assez héroïquement résisté,
oui, j'ai résisté
à la torture, et vous n'avez livré aucun nom.
Oui, je n'ai donné aucun nom, mon corps était détruit, tout ça, mais j'ai dit que, quand même, c'est entre moi et moi, je pense. J'ai dit que je pouvais faire encore plus, pour un peu mettre quelque part, pour ne pas parler au téléphone comme ça, je ne sais pas, pour que tout ce
travail... Oui, pour éviter l'arrestation aussi, tout ce qui a mené à votre arrestation. Vous décrivez que vous aviez une forme d'inconscience à ce moment-là, voilà. Vous étiez très jeune aussi.
Très jeune, oui. Ouais. Donc je les comprends, les jeunes Pnar, mais après, j'ai dit que donc, maintenant, je suis ma recherche, je sens ma recherche dans moi, même l'émotion de ma recherche, je le sens dans moi, et je sais que cette recherche appartient à une histoire collective qui continue à vivre. Et je dis, là, c'est là, il y a un autre type de responsabilité qui commence à venir, donc il faut que je donne au collectif ce qui est dû aussi. Donc moi, j'avais vécu une expérience, et cette expérience appartient à nos collectifs. Donc, une collectif qui continue à vivre, comme je dis. Donc, j'ai travaillé très rigoureusement, comme Agnès vous avait dit, pour vraiment être digne à cette responsabilité. Mais bien évidemment, la rigueur scientifique, je ne peux pas, c'est impossible de vraiment restituer 100% les recherches. Et même je mets en italique, c'est impossible que la tête que je suis, j'ai maintenant, ne pourrait pas vraiment être fidèle 100%, mais j'ai créé, donc c'est une expérience que je fais aujourd'hui, et parce que je n'ai jamais vécu cette expérience avant, et donc je crois que dans quelques années, je vais réfléchir sur cette expérience, peut-être je peux parler dans un autre article sur cette expérience.
Ouais, la manière dont vous retranscrivez les choses aussi est riche de la chercheuse que vous êtes aujourd'hui. Il y a une articulation dans ce texte vraiment assez fascinante, toute une réflexion qui se déploie sur la mémoire et le corps. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait de votre livre, Pnar Selek. Durant les 2 ans et demi de mon emprisonnement, je n'ai jamais songé à ma recherche. Le plus tragique de cette histoire est peut-être cela, son effacement de mon esprit. C'est aujourd'hui que je me rends compte de cette situation. Est-ce lié à cette parole magique « Si tu veux vraiment survivre en prison, il faut que tu oublies ton procès ». Comme tout fait social, mon oubli est certainement multifactoriel. Mais en écrivant ce récit, je comprends maintenant que le fait d'avoir dû défendre ma recherche sous la torture est un facteur capital. Dans le processus de destruction de ma recherche, mes souvenirs de ces documents ne se rattachent pas seulement au terrain, mais aussi à un autre contexte. Ils ont été lus et répétés sous la torture. Les yeux bandés, je ne voyais pas les bouches qui les lisaient. Aujourd'hui, quand je tire du puits de ma mémoire un matériau, je sens l'odeur de la cigarette et une énorme douleur. Et je comprends comment j'ai imprimé en moi ces matériaux durant la torture. Comment durant plusieurs nuits et plusieurs jours, j'ai fait l'expérience de les cacher devant la police, je les ai imprimés en moi. La torture, au lieu de les évacuer, a eu un effet contraire et a fait en sorte que s'enracine en moi la mémoire de mon étude. J'ai enraciné mes matériaux jusque dans mes cellules, avec une grande force. Aujourd'hui, ils font partie de moi. Ma recherche est mon corps. Je je voulais qu'on dise un dernier mot, Pnar Selek, parce qu'on arrive malheureusement déjà au terme de cette conversation, mais de cette idée si forte qui est développée dans la deuxième partie de l'ouvrage, dont le mouvement même est assez saisissant. Hein. Dans une première partie, vous commencez par nous dire « j'ai mal » dans le texte que j'ai lu en introduction, mais malgré tout, ensuite, vous nous faites traverser cette recherche. Et puis, dans une deuxième partie, vous expliquez votre arrestation, la torture et la manière dont cette torture a bizarrement imprimé les choses en vous. Et vous parlez de votre recherche comme d'un corps, en quel sens, en quelques mots malheureusement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Je pense à Donat Reveil, et je pense à beaucoup de penseurs féministes et qui critiquent le dualisme. Et maintenant, je l'ai vécu avec mon corps. Ces théories que je défendais déjà. Et donc, en écrivant, j'ai essayé de ne rien cacher, d'être transparent, de montrer mes sensibilités et dire que moi, je peux réfléchir aussi sur mon expérience en tant que chercheuse et parce que mon expérience fait partie du terrain. Donc, je pense que ça crée une savoir multidimensionnel qui montre un peu la complexité de notre monde.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
À cette heure-ci, chaque jour, dans le Book Club, on joue à trouver de la musique dans un livre. On invite tous nos auditeurs ou nos auditrices à nous envoyer des extraits de textes s'ils en trouvent, dans lesquels sont cités des passages musicaux. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure. La musique, elle était très présente dans l'étude que vous avez faite auprès des populations kurdes. Pnar Selek, on va donc se quitter avec un dernier extrait de votre texte. Dans plusieurs villages, j'ai écouté les cassettes d'Aram Tigran, musicien arménien qui chantait principalement en kurde. Il avait donné vie à des chansons très célèbres, dont la plupart ont été reprises par de multiples musiciens kurdes. Siwan Perver, quant à lui, était l'un des plus populaires parmi les chanteurs contemporains. Tout en explorant la tradition orale kurde et s'inspirant des chants des Dengbej, il actualisait le corpus des récits épiques de la région. Devenus rapidement les voix du mouvement kurde, ces deux chanteurs sont des exemples de la circulation de la résistance antérieure au mouvement. Un autre exemple, Koma Berksuedan, groupe de la résistance, fondé en Allemagne en 1983, est né au sein du mouvement kurde et s'est établi comme la voix de la résistance. Ses concerts suscitaient une participation massive en Europe et des milliers de cassettes et CD du groupe parvenaient clandestinement jusqu'aux Kurdes de Turquie. Sur la scène de la contestation kurde, devenu un espace fluide de circulation, c'était souvent à travers la musique que voyageaient les récits historiques et mythiques. En effet, par ces récits, un monde parallèle a été tissé dans l'obscurité des coulisses.
Şirine dünya alem dizane emşerdik enşi bode.
Un très grand merci, Pnar Selek, d'avoir été avec nous pour parler de ce livre « Lever la tête, la recherche interdite sur la résistance kurde » aux éditions Université Paris-Cité. Et je signale la reparution toute prochaine aux éditions des femmes de votre roman « La maison du Bosphore ». Aujourd'hui à la réalisation, c'était Vivien Demeyer, à la prise de son Grégory Wallon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout spécialement aujourd'hui à Julie Gastal. Merci aussi à Alexandre Alaï-Begovic qui poursuit la conversation avec vous sur le compte Instagram de
Moi
l'émission.
Moi aussi, je vous remercie.